J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.
Bonsoir, bienvenue sur Radio B dans Roman de Gare, l'émission consacrée à l'écriture et à la lecture. Un jeudi sur deux à 18h30, je vous propose de retrouver une autrice ou un auteur. Nous parlerons de ses livres et de sa passion pour l'écriture, sans oublier nos coups de cœur, les sorties de livres et les dates de séances de dédicaces dans la région proche. Pour cette 17e édition de Roman de Gare, alors moi j'ai le plaisir d'accueillir dans les studios de Radio B l'autrice rhône-alpine de naissance et francilienne de cœur, Cécile Baudin, dans le deuxième roman La Constance de la Louve, est paru le 14 mars 2024 aux éditions Presse de la Cité et dans la collection Terre de France. Cécile, bonsoir.
Bonsoir Michel, bonsoir tout le monde.
Alors, est-ce que la question habituelle que je pose à tout le monde, maintenant que tu as un petit peu de bouteille dans le métier, comment dire, est-ce que tu préfères le mot autrice, écrivaine ou romancière lorsqu'on te présente?
Romancière. Ouais. Autrice, je trouve que c'est pas très joli, et écrivaine, j'entends veine. Donc je préfère auteur ou autrice, enfin surtout plutôt romancière en fait, ouais, ou auteur avec un E, romancière. Romancière c'est très bien parce que l'idée c'est vraiment de raconter des histoires.
Des romances. Bien, alors tu n'es pas une inconnue à Radio B puisque tu étais venue nous présenter ton premier roman Marque de Fabrique dans le magazine du mercredi 7 juin 2023. Un an plus tard, bah, il s'est passé énormément de choses. Hein. Alors des salons, des séances de dédicaces, de bien belles chroniques, des prix, la parution de ton nouveau roman La Constance de la Louve, la sortie au format poche, aux éditions 10-18 de ton premier roman Marque de Fabrique, sans oublier la sortie du même roman aux éditions Oculus, spécialisée dans les gros caractères et en italien aux éditions du Nord. Sans oublier l'achat des droits en vue d'une éventuelle adaptation cinématographique. Alors, comment as-tu vécu cette année pas comme les autres?
Ben, comme une petite fille dans un magasin de bonbons. voilà, en trouvant que tout est beau, que tout est merveilleux. Et voilà, en étant toujours très agréablement surprise de tout ce qui se passait. Et voilà, tout en relativisant quand même, hein, parce que je ne suis plus justement une petite fille depuis longtemps. Non, j'ai vécu ça avec beaucoup de plaisir. Et puis surtout, quel bonheur de rencontrer des tas de gens intéressants, passionnés. Et puis pour la première fois, parce que c'est ce qui se passe quand on est du coup un peu dans l'histoire depuis plus d'un an, on commence à rencontrer ses lecteurs. Voilà, des gens qui reviennent acheter le deuxième parce qu'ils ont aimé le premier et que ça leur a fait quelque chose. Ça leur a procuré des émotions et ils les racontent. Et ça, c'est assez vertigineux d'imaginer le pouvoir des mots en fait, sur les gens. Je suis toujours très étonnée de ça.
Alors, côté salon et séance de dédicace, tu t'es baladée un peu partout et dans toutes sortes de lieux, hein, des prestigieux festivals du livre à Paris, au Quai du Polar à Lyon, en passant par la FNAC de Bourg-en-Bresse, la librairie Buffet à Oyonnax ou le Salon du Livre de Nantua. Tu n'as pas ménagé ta peine pour promouvoir tes romans. Ça y est, tu es à l'aise de l'autre côté de la table?
Je ne suis jamais à l'aise de l'autre côté de la table. J'espère ne jamais l'être parce que si je l'étais trop, ça voudrait dire que je manquerais peut-être, je ne sais pas, de spontanéité ou de magie. Mais je suis moins stressée, effectivement, et je prends plus de plaisir. Au début, il faut parfois vaincre un peu sa timidité ou ses propres a priori ou son manque de confiance. Et c'est vrai que, voilà, au bout d'un moment, on est un peu moins timide et on peut profiter un peu plus des moments.
Ouais, je confirme. Alors, ton premier roman, Marque de Fabrique, a reçu en 2024 plusieurs distinctions. Le prix donc, littéraire du roman régional du Lions Club Centre-Sud, le prix Canu, sans oublier le prix Polar Plus du roman noir historique 10-18. Alors, peux-tu nous détailler les trois prix que tu as reçus?
Oui, alors dans l'ordre chronologique, en janvier, remise du prix Canu 2024, qui est donc un prix qui est délivré par la République des Canus à Lyon et qui vise à promouvoir et à reconnaître le roman d'un auteur d'origine lyonnaise et ou qui défend un patrimoine lyonnais. Voilà, donc moi je suis née à Lyon, à Gerland, donc ça collait bien. Et c'est la librairie des Canus, notamment, qui avait recommandé mon livre. Il s'est retrouvé finaliste parmi d'autres, qui était très intéressant aussi. Et j'ai été vraiment ravie de cette distinction. J'ai été hyper bien accueillie par la République des Canus. On a passé une super soirée, c'était très très sympa à la Croix-Rousse. Surtout que moi, quand j'étais toute petite, j'ai fait mon primaire place du commandant Arnaud à la Croix-Rousse. Alors du coup, voilà, j'étais un peu à la maison. C'était vraiment super sympa, un prix vraiment de cœur. Ensuite, le prix Lions Club, effectivement, que le Lions Club qui est une association hein, qui humaniste et qui vise à promouvoir voilà, un certain nombre de choses et notamment qui délivre un prix littéraire. Alors, ils ont 15 régions, 15 districts. J'ai gagné celui de la région Centre-Sud, en gros, qui englobe Lyon et l'Ain. Je n'ai pas gagné le national. Hein, il y avait une chance sur 15. Je n'ai pas gagné le national, mais en tout cas, celui de la région. Et le prix Polar Plus 10-18, vraiment, pour moi, il est très impressionnant. Parce que là, on sort du registre un petit peu plus régional dans lequel moi j'évoluais jusqu'à présent. Et là, c'est une reconnaissance d'un jury qui est composé de parmi donc 7 finalistes en polar historique. Et le jury est constitué d'abonnés du groupe Canal+. C'est pour ça que c'est en l'occurrence la chaîne Polar Plus qui donne son nom au prix. Le Figaro Magazine et un réseau de libraires, le réseau Libraire Ensemble. Donc c'est les trois, c'est la notation des trois qui permet le classement. Donc c'est vraiment une reconnaissance formidable qui m'a fait vraiment très très plaisir et puis qui m'a fait plaisir aussi pour tous les gens qui, depuis un an, ne ménagent pas leur peine, leur effort et leur gentillesse pour défendre ce livre qui part de nulle part. Et voilà, je suis contente pour eux aussi parce que ça veut dire que ils ont leur effort à porter et c'est une reconnaissance pour eux aussi.
Pour un premier livre d'une nouvelle autrice, on peut pas rêver meilleur départ.
C'est un super départ, c'est inespéré, c'est vrai qu'en plus ça crée des liens avec les gens qui, je l'espère, dureront, avec d'autres éditeurs bien évidemment, comme 10-18 en poche, ce qui permet d'avoir une vie plus longue pour les livres et puis surtout de sortir en poche, c'est quand même vraiment super, hein, surtout pour un premier roman. Puis 10-18 c'est une super collection, elle est vraiment marquée policier, c'est une référence quand même dans le policier, donc c'était vraiment formidable. Donc oui, un bon départ.
Donc ton premier roman va donc vivre une seconde jeunesse et sera à un prix plus abordable que la version brochée parce que 8,90 € au lieu de 22 €. C'est important pour toi de pouvoir vendre ton roman le moins cher possible sans compter que le format poche se range plus facilement dans une bibliothèque.
Ce qui est important pour moi, c'est de proposer plusieurs modalités pour le plus grand nombre. J'ai pas une préférence pour l'une ou l'autre. Il y a des gens qui préfèrent le brochet parce que c'est écrit plus gros, parce que c'est un objet souvenir, parce que c'est un objet qu'on offre, parce que c'est plus beau dans une bibliothèque. Et il y en a d'autres qui vont préférer le poche parce que ça se met dans la poche, ça s'emmène en vacances, ça coûte moins cher, etc. Le e-book, en tout cas la version numérique, c'est très bien aussi. C'est un prix intermédiaire qui est très bien aussi. Donc moi, ce que je trouve important, c'est qu'il y ait une gamme qui permette à chacun de trouver son bonheur et c'est ça qui compte.
Donc avec le prix que Marc de Fabrique a reçu jeudi dernier donc à la librairie Montbarbon, à savoir le prix Polar Plus du roman noir historique, 10-18 en partenariat avec les éditions 10-18, bien évidemment, Libraire Ensemble, Figaro Magazine et Canal+, j'imagine que tu vas être encore de plus sollicité et ouvrir encore plus ton lectorat avec ça.
Alors, je l'espère, hein, c'est bien sûr le souhait. Je suis vraiment très contente que ce prix ait couronné un livre de poche parce qu'effectivement, c'est vrai que l'assiette de destination du poche, elle est beaucoup plus large. Ouais. Elle va permettre de découvrir bien au-delà de l'Ain, bien au-delà de Presse de la Cité, bien au-delà du brochet, cette histoire. Donc, ça lui donne une couverture beaucoup plus large, ça lui donne une possibilité plus large. Donc, c'est super et j'espère que ça donnera aux gens l'envie de venir à mes autres histoires.
Exactement. Les droits de Marc de Fabrique ont été achetés en vue d'une possible adaptation cinématographique. Ça aussi, c'est une sacrée bonne et rapide surprise. En quoi cela consiste et quelle est la chance que ça aboutisse ?
Alors, ça consiste finalement, lorsqu'un éditeur vend les droits d'un livre, ça consiste à donner une espèce d'option préférentielle à un producteur qui souhaite en faire quelque chose. Et ça fonctionne un peu comme l'achat d'une maison. On signe d'abord une espèce de compromis, mais qui est un engagement de principe. Et avant qu'il se transforme en vente définitive, il faut lever un certain nombre de conditions et on a un temps pour cela. C'est exactement la même chose entre les livres et les films. Un producteur dit, voilà, cette histoire m'intéresse, mais j'ai besoin de temps pour mener à bien mon projet et notamment pour réunir les sous nécessaires. Et donc, ils ont un temps qui est long. Hein. Ils ont, suivant les cas, 12, 18, 24 mois.
Toi, c'est quoi, bien ?
Moi, en l'occurrence, c'est 18 mois. Et voilà, ils ont ce temps pour constituer tout un projet, un scénario, un semblant de casting, un budget, trouver des financements. Et seulement quand toutes ces conditions sont levées, alors à ce moment-là, on va au bout. Donc, c'est une bonne option, c'est un bon début. Et puis, de toute façon, il faut bien commencer par là. Mais ce n'est pas la garantie. Tant qu'un film n'est pas sur les écrans, il n'est pas sur les écrans. Mais en tout cas, c'est un super début. Les producteurs sont très sérieux, très emballés. Donc voilà, je croise mes doigts.
Alors, Marc de Fabrique a été édité, je le disais, aux éditions Oculus, spécialisée dans les gros caractères. Alors, cela veut-il dire qu'une partie de ton lectorat a des problèmes de vue comme les personnes d'un certain âge et que l'on qualifie de senior ?
Eh bien, les éditions comme Oculus, c'est pas les seules, sont des éditeurs qui se sont spécialisés effectivement dans le gros caractère pour les gens. Alors, pour les gens d'un certain âge, qui effectivement sont plus confort avec des tailles de police de l'ordre de 16 que des petits caractères. Mais il n'y a pas que des personnes âgées, il y a aussi des tas de gens qui sont un petit peu malvoyants et qui veulent quand même des livres, mais qui n'achètent pas toujours les livres parce que c'est écrit petit, c'est pas facile. Donc voilà, il y a tout un tas de gens qui pour qui c'est plus confortable d'être en gros caractère et pas forcément que des personnes âgées.
Ouais, ce serait mieux peut-être avec l'audiolivre.
C'est possible aussi, ouais. Voilà, ça fait partie de la gamme. Quand on a toute la gamme, c'est super, mais elle est déjà très, très large. Là.
Pour l'instant, tu n'as pas la gamme audio-livre.
Pas que je sache. Non.
Alors, Marc de Fabrique, La Fabrica dei Destini Invisibili, c'est ça à peu près ?
Ouais.
C'est italien, ça. La Fabrique des Destins Invisibles a été édité en italien par les éditions du Nord. Il y avait une demande des lectrices et des lecteurs italiens ?
Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Ils ont aimé cette histoire, ils l'ont trouvée très romanesque, ils l'ont trouvée mystérieuse. Et je pense qu'ils ont été... L'Italie, et notamment l'Italie du Nord, a aussi une histoire industrielle qui a commencé aussi au 19e. Et voilà, je pense que ça leur parle, cette histoire.
Le titre, La Fabrique des Destins Invisibles, ça te va ?
Oui, ça me va, mais moi tout me va. L'essentiel, c'est que ça aille aux gens qui lisent. C'est ça surtout qui est important,
c'est
moi,
détail,
après.
Hein. Oui, bien. Allez, le 7 juin 2023, tu nous avais annoncé la sortie en 2024 de ton second roman, La Constance de la Louve. Alors, comme le premier, il est paru d'abord en août 2023 chez France Loisirs, avant la parution le 14 mars 2024 aux éditions Presse de la Cité et dans la collection Terre de France. C'est un livre que tu écris quand ?
C'est une sacrée bonne question, ça.
Tu ne te rappelles plus ?
Bah si. Parce qu'en fait, pour tout te dire... C'est le tout premier livre que j'ai écrit. Et je l'avais écrit pour moi, pour me faire plaisir. Et ensuite seulement, j'ai écrit Marc de Fabrique. Et c'est là que mon époux m'a dit, c'est pas mal ce que tu fais, tu devrais envoyer Marc de Fabrique à des éditeurs. Ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que Marc de Fabrique a été édité en premier. Mais lorsque Marc de Fabrique a été optionné, l'éditeur m'a dit, mais vous n'avez pas une autre histoire, éventure ? Je lui ai dit, bah si, il y a celle que j'ai écrite pour moi. Et ils ont adoré, ils ont dit très bien, on la sortira l'année d'après. Donc en fait, La Constance de la Louve est le tout premier véritablement que j'ai écrit à l'origine, avant même Marc de Fabrique.
D'accord.
Donc c'était en 2021.
Il aurait pu sortir en premier. Ça s'est fait comme ça.
Ça s'est fait comme ça. Et de toute façon, moi, les premières histoires que j'écrivais, en tout cas cette première trilogie sur le 19e siècle, ce sont des histoires indépendantes. Elles se passent à des temps différents, dans des endroits différents, avec des héros différents, et peuvent se lire dans tous les ordres. Donc ce n'était pas du tout un souci.
Alors, peux-tu, sans trop en dévoiler, nous raconter l'histoire de ton deuxième roman, La Constance de la Louve ?
Volontiers.
Sans trop dire de choses.
Alors, nous sommes toujours au 19e siècle. Nous sommes plutôt au début du 19e siècle et cette fois, nous partons en Lozère, qui est un département encore très rural, faiblement mécanisé. Encore mystérieux parce qu'on est 70 ans après la bête du Gévaudan. On est contemporain aussi de l'auberge de Perbeil, pour ceux qui connaissent l'auberge rouge. Mmh. On éradique les loups dans les forêts. On n'est pas très loin après les guerres de l'Empire. Donc, voilà, on est dans une époque qui est quand même un peu de transition. On n'est pas encore rentré dans la mécanisation véritablement. On sort de guerres assez lourdes et cette ambiance est un peu sanglante, un peu étrange. Et c'est dans cette ambiance qu'un matin d'hiver, le corps sans vie d'un jeune étudiant en médecine est retrouvé au pied de l'asile où il travaillait. On est dans les tout débuts de la psychiatrie moderne. Et il n'est pas rare à l'époque que les gens s'endorment dans les tempêtes de neige. Et une tempête faisait rage la veille, donc on n'est pas très étonné que ce jeune étudiant qui sortait beaucoup la nuit se retrouve endormi dans la neige. Et pourtant... Le lieutenant de louveterie, puisqu'à l'époque on éradique donc les loups dans les forêts, le lieutenant de louveterie dont c'est le job, mais qui est également un fin limier donc, un chasseur, et par ailleurs juge de paix, trouve quelques invraisemblances et quelques indices étranges quant à la mort de ce jeune étudiant. Il va choisir de mener l'enquête et son enquête va l'amener à découvrir d'autres meurtres qui ont précédé celui-ci et qui ont pris les apparences des fatalités de l'époque.
Alors, La Constance de la Louve se passe en Lozère, tu le disais. Un département que tu connais bien. Alors, c'est quand même tout sauf un hasard si ton roman se déroule dans ce département.
Ah, bien sûr. C'est un département de cœur. J'y ai passé plusieurs années dans mon enfance. J'ai vécu là-bas. J'ai d'ailleurs vécu à Langogne, la ville où se passe l'histoire. Et d'ailleurs, quand j'ai fini mon histoire, j'ai envoyé le manuscrit à mon ancien prof d'histoire-géographie, qui a quelque chose comme 80 ans maintenant, pour qu'il corrige, comme à l'époque du collège. Et voilà, non, c'est ma ville d'enfance où j'ai tellement de chouettes souvenirs de famille. Et puis, c'est un département de cœur pour mes grands-parents et aussi pour mon père qui aimait infiniment ce département et qui y a retapé une vieille ferme dans la Margeride pendant 30 ans.
Alors, dans le titre dans ton roman, il y a Constance et Louve. Alors, encore un jeu de mots, après marque de fabrique. Constance avec un C majuscule, hein, est l'une des héroïnes du roman. Et la notion de loup et donc de louve est omniprésente. On est dans la région où a sévi, tu disais, la légendaire bête du Gévaudan, qui aurait été abattue par un certain Jean
Chastel.
Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce mystère qui n'a jamais été réellement résolu ?
Ce qui m'a attiré, c'est comme... Parce que ça a été un drame quand même très violent et terrible. 100 personnes massacrées en 3 ans. On n'a pas, à ma connaissance, d'équivalence de ce type de fait divers hors la bête du Gévaudan. Et en fait, je m'intéressais au mystère qu'elle laisse derrière elle, aux générations qui suivent. L'autre jour, je me promenais en Lozère et on voit devant certaines maisons encore des sculptures, des dessins de la bête. Elle est restée longtemps dans les esprits. Elle a vraiment forgé quelque chose d'un peu diabolique dans les légendes, dans les contes. Et voilà, ça m'intéressait de me placer plusieurs générations, on est quand même 70 ans après, hein, mais ça m'intéressait de me placer dans la suite de ce massacre et dans ce qu'elle a pu laisser dans l'esprit des gens de folie et de peur et de superstition.
Alors, je parlais de Jean Chastel, son descendant, donc Victor Chastel, le personnage principal de ton deuxième roman, est juge de paix et lieutenant de louveterie. Alors, en quoi consistait en 1835 le métier de juge de paix et puis lieutenant de louveterie par la même occasion ?
Alors, le lieutenant de louveterie était nommé par le roi à l'époque pour mener l'éradication des loups qui, à l'époque, étaient jugés comme un fléau national. Donc, voilà. D'ailleurs, pendant pas mal d'années, les villageois percevaient de l'argent, des espèces de récompenses quand ils ramenaient des cadavres de loups. Mais on professionnalisait le truc, donc des gens étaient nommés lieutenants de louveterie, ils montaient des équipes de louvetiers dont c'était le métier de chasser les loups. Ils le faisaient d'ailleurs sur leur denier propre la plupart du temps, mais c'était les chasseurs de loups officiels. Le juge de paix, eh bien, c'était effectivement le représentant de la justice de proximité à l'époque, hein, qui a duré longtemps, même au-delà du 19e, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, qui servait, c'était une espèce c'est un pseudo juge d'instruction local, disons. Alors, dans mon histoire, le juge de paix est par ailleurs le tenant de louveterie, parce que ce qui m'intéressait, c'était de croiser effectivement l'instinct du chasseur avec la responsabilité de l'enquêteur. Voilà, donc c'est pour ça qu'il a ces deux casquettes.
Donc Victor Chastel a un lien particulier avec les loups. Peut-on dire que parfois, il leur ressemble ?
Oui, il leur ressemble et puis surtout, il les aime. Et paradoxalement, c'est parce qu'il les aime qu'il les chasse. Parce qu'il préfère s'en charger lui-même plutôt que des bouchers sans cœur et sanguinaires s'en chargent. Mais il les aime, il les admire, il a une histoire personnelle avec eux. Une histoire d'enfance et une histoire personnelle avec eux. Il admire leur liberté. Il les compare souvent d'ailleurs aux hommes parce que les loups sont en haut de la chaîne alimentaire et n'ont pas de prédateurs eux-mêmes. Sinon, la limitation de leurs ressources, hein, voilà. Mais sinon, ils n'ont pas de prédateurs, un peu comme l'homme. Et lui, il estime que c'est pour ça, que c'est un peu l'homme ou les loups. C'est que finalement, les deux concourent pour être en haut de la chaîne alimentaire. Et lui, il est plutôt loup, c'est-à-dire plutôt sauvage, plutôt indomptable, difficilement apprivoisable, assez solitaire, bien que pouvant fonctionner en meute, hein, mais assez solitaire. Et il a effectivement ce côté loup. Mais il a aussi son côté chien, comme son chien loup qui l'accompagne tout le temps. Il a aussi son côté chien et il a aussi besoin, malgré tout ce qu'il peut dire, il a besoin d'amour et il a aussi besoin des gens.
Alors, la Constance de la Louve se déroule pendant l'hiver 1835 dans un département essentiellement agricole, situé à plus de 800 mètres d'altitude, et où les conditions de vie sont rudes pour la plupart des habitantes et des habitants. Tu avais besoin de ces conditions de vie particulières, à savoir le froid et la neige pour ton histoire. Tu avais besoin que ce soit de difficiles conditions de vie.
Alors pour mon histoire, j'avais surtout besoin et envie que finalement les saisons soient très marquées. Et de montrer comment dans une vie comme celle-ci, en montagne, en ruralité, on vit avec les saisons. On est rythmé par les saisons. Moi, je l'ai ressenti dans les années 80 quand j'y vivais. On vit comme ça tous l'hiver, on vit comme ça tous au printemps, on fait tous les mêmes choses, on va tous aux champignons, on va tous au ski de fond, on va tous aux myrtilles à l'automne. Voilà, il y a une espèce de vie collective où la communauté est rythmée par les saisons. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette histoire, les chapitres sont rangés en parties et chaque partie correspond à une saison. C'est une façon de montrer cette espèce d'interdépendance entre les individus et le climat, en fait.
Le personnage principal de la Constance de la Louve est un homme, contrairement à Marc de Fabrique où c'était deux femmes. La gente féminine n'est jamais loin, évidemment, est très présente. Les femmes dans tes romans ont une meilleure image que les hommes, moi je trouve, comme si l'homme avait beaucoup de choses à se reprocher, que ce soit dans les couches supérieures qu'inférieures d'ailleurs.
C'est un parti pris d'une histoire donnée. Alors c'est particulièrement vrai dans Marc de Fabrique. C'est un peu moins vrai dans la Constance de la Louve, hein, eu égard notamment à tout ce qu'on découvre au fur et à mesure de l'histoire. Et on découvre que les femmes ne sont pas meilleures que les hommes d'ailleurs. Et elles peuvent être tout aussi égoïstes, tout aussi fourbes, voilà, et tout aussi agissantes. Il se trouve qu'au XIXe siècle, c'est les hommes qui ont le pouvoir. Donc, bien évidemment, lorsque quelqu'un l'exerce, soit en abusant de ses privilèges, soit en abusant de sa force... C'est plutôt l'homme que la femme. C'est pas ma faute. Mais c'est un parti pris parce que je m'intéresse au phénomène d'émancipation en réalité. Mais par exemple, dans Dur comme fer qui arrive bientôt, on suivra surtout des destins d'hommes et des aventures d'hommes.
Alors, dans la Constance de la Louve, les décors, les lieux, les couleurs et même le climat jouent un rôle très important.
Oui.
Il y a une certaine hostilité face à l'être humain. L'image de la Lozère, c'est si difficile que ça?
C'est âpre. Moi, quand j'étais petite, je me rappelle... Alors, c'est plus le cas aujourd'hui, mais quand j'étais petite, je me souviens qu'un hiver sur deux, quasiment, on déclenchait ce qu'on appelait à l'époque les plans hors sec, que l'école était fermée, que les bus ne circulaient plus. On a eu jusqu'à des moins 28 certains matins et mon père allait au boulot en ski de fond. Donc, oui, on est sur une nature qui est quand même, qui peut être assez âpre. Mais justement, ce que moi je trouvais super à vivre et ce que j'aimais beaucoup en Lozère, c'est que parce que la nature, effectivement, est assez âpre, les communautés sont soudées. Elles sont soudées, elles sont solidaires, elles apprennent à vivre et travailler ensemble face, justement, à des climats qui étaient rudes. Et c'est ça que je trouve, moi, assez joli et romanesque. Donc, je ne voudrais pas qu'on pense que c'est inhospitalier, parce que c'est très attachant. La Lozère, c'est très beau. C'est des rivières, c'est des moyennes montagnes, c'est des forêts, c'est des causses, c'est des gorges. C'est un paysage extrêmement diversifié. C'est vraiment très très beau et très attachant. C'est des lacs, bien sûr. Donc voilà. Mais effectivement, c'est une nature qui ne fait pas semblant d'être une nature, quoi.
Il vaut mieux y aller en été plutôt qu'en hiver, alors.
Oui, il vaut mieux y aller en été, donc du 15 juillet au 15 août. Hein. Enfin, aujourd'hui, excuse-moi, mais c'est l'hiver partout. Hein. Bon.
Alors, comme pour Marc de Fabrique, tu es évidemment allé en Lozère. Qui t'a aidé dans tes recherches?
Alors, comme c'était mon tout premier roman, j'ai pas osé demander trop de choses à trop de gens. J'y arrive mieux maintenant, mais à l'époque, je n'osais pas trop me faire remarquer. Néanmoins, j'ai été bien accueillie donc par mon ancien prof d'histoire géo et par notamment des gens à la filature des Calquières, qui est une des plus belles et des plus anciennes filatures de laine qui se trouve là-bas à Langogne et qui a servi entre autres de décor à certains des livres. Pour le reste, je me suis faufilée sans rien dire. Je me suis faufilée dans l'hôpital, parce que l'asile est devenu un hôpital psychiatrique. Encore aujourd'hui, je me suis faufilée dans l'enceinte de l'hôpital sans rien dire. À l'époque, je ne me faisais pas remarquer.
Et puis, on peut voir en reportage sur YouTube.
Absolument.
On te suit à travers la Lozère.
Absolument, ça s'appelle Sur la Terre des Écrivains, c'est sur YouTube.
Oui.
Il suffit de taper mon nom, hein, Cécile Baudin ou Sur la Terre des Écrivains. Et effectivement, l'éditeur Presse de la Cité a produit ce petit film d'une quinzaine de minutes et qui vise finalement à suivre un écrivain, bon, en l'occurrence moi, mais je suis la troisième, il y en a d'autres qui arrivent, sur les terres de son roman et qui sont aussi les siennes de terre. Donc l'idée, c'est de faire un peu ce lien entre les décors du livre, montrer les décors du livre tels qu'ils sont pour de vrai, et en même temps raconter cette terre, en quoi elle nous parle et les souvenirs qu'on y a.
Alors avec Marc de Fabrique et son succès certain, voire son certain succès, est-ce plus facile pour trouver des séances dédicaces pour avoir des chroniques, des reportages pour la Constance de la Louve, par exemple?
Moi, franchement, en termes de... Alors, le lectorat, il y a déjà un petit lectorat. Voilà, la Constance de la Louve ne part pas de zéro, puisqu'il y a déjà un petit lectorat de gens qui ont aimé Marc de Fabrique et qui iront naturellement à la Constance de la Louve. Donc, il y a déjà une base de départ. On capitalise quand même un peu et ce sera moins difficile, disons. Ensuite, s'agissant des prescripteurs, des intermédiaires, quels qu'ils soient, bon, forcément, ça reste toujours compliqué. Il y a toujours 10 000 livres qui sortent, qui sont super, plein qui ont des prix. Enfin, voilà, c'est jamais simple. Mais disons que moi, aujourd'hui, j'ai une base extrêmement loyale, extrêmement fidèle, notamment dans l'Ain et sur Lyon, et qui fonctionne très, très bien et qui est un bon point de départ. Et puis, écoute, le reste se fait gentiment au fur et à mesure, mais voilà.
Donc là, parce que Marc de Fabrique se passe dans l'Ain, la Constance de la Louve se passe en Lozère, ce qui veut dire que tu vas forcément aller plus souvent en Lozère.
Tous les départements ne sont pas forcément d'abord tous achalandés de la même manière en termes de librairie.
Je me dis qu'en Lozère, c'est...
Voilà.
Ça doit pas être facile.
Il y a moins de librairies.
Ouais,
d'abord, il y a moins de monde. Hein. C'est quand même le département le moins peuplé de France. Hein. C'est un peu bête, d'ailleurs, en termes de marketing, hein, d'avoir posé le livre là-bas.
Il y a Mende et puis c'est tout, c'est ça?
C'est non, ça. Il y a Mende, il y a Langogne et Florac, en gros. Enfin, Mende, Florac et Langogne, exactement. Mais non, c'est vrai, il y a très peu d'habitants. Comme il y a peu d'habitants, bah forcément, il y a peu de prescripteurs, pas énormément de libraires. Je vais faire deux dédicaces le mois prochain là-bas. Il y a quand même des librairies, bien sûr. Mais voilà. Après, autant écrire une histoire dans l'Ain va prioritairement intéresser l'Ain. Autant écrire une histoire en Lozère va intéresser tous ceux qui s'intéressent à une certaine ruralité française. C'est-à-dire que la Lozère est assez... Il y a plein de gens qui sont vivre en Lozère, connaissent la Lozère, aiment la Lozère. Et sinon, la Lozère, mais ce massif central, cette moyenne montagne, cette ambiance comme ça de forêt d'hiver. C'est l'image d'une certaine ruralité française. Et en ça, c'est finalement presque un petit peu plus universel, la Lozère, que l'Ain, qui est quand même assez spécifique. Donc l'un dans l'autre, il y a moins de monde, mais l'assiette est plus large.
Alors, un peu plus d'un an après la sortie de Marc de Fabrique, est-ce que tu sens une sorte de reconnaissance, que ce soit de la part du public, des salons ou des libraires ?
Alors, je sens bien sûr une certaine reconnaissance parce que... Alors, de la part des libraires, oui, assurément, parce que en général, quand ils lisent Marc de Fabrique et La Constance, ils aiment. Et quand ils aiment, ils vendent et leurs clients sont contents. Donc c'est la première reconnaissance, j'allais dire, la plus importante et la plus intéressante, parce que c'est celle sur laquelle on va pouvoir construire véritablement une histoire longue. Alors bien sûr, j'ai eu 3 prix, et voilà, donc forcément c'est sympa, et c'est une reconnaissance, et ça fait vraiment très très plaisir. Mais on part de zéro à chaque histoire. C'est-à-dire qu'à chaque histoire, on remet le métier sur la table, on recommence, et en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses. À chaque histoire, c'est comme si je repartais de zéro. C'est pas vrai, bien sûr. Mais voilà, je repars de zéro. Il faut à nouveau surprendre. Il faut à nouveau étonner. Il faut à nouveau passionner les gens. Et voilà, il faut recommencer tout du début. Et c'est pour ça qu'on peut très bien avoir un livre qui marche, un autre un petit peu moins, le troisième énormément. Enfin bref. Parce qu'en réalité, on part de zéro à chaque fois.
Ah, est-ce que le livre Marc de Fabrique, qui en plus qui a été maintenant en format poche, ne fait pas un petit peu d'ombre à la Constance de la Louvre ? Parce que par exemple, je t'ai vu hier à la FNAC de Bourg-en-Bresse, j'ai l'impression que tu faisais plus la promo pour attirer les gens, pour leur dire celui-là il parle de l'Ain, celui-là il parle de l'Ain, et moins l'autre.
Bah,
alors que l'autre, il vient à peine de sortir, il mériterait peut-être un petit peu plus de...
Bien sûr, alors c'est vrai que quand on est en dédicace dans l'Ain, c'est plus facile de commencer par vendre l'Ain. Et ce que je me dis, c'est que lorsque les gens auront aimé Marque de Fabrique en poche, ils viendront à la Constance de la Louve en poche ou pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, il faut être patient. La vie d'un livre, c'est pas, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas forcément 2 mois. La vie d'un livre, elle s'étale sur 2-3 ans. Il a une petite vie chez Françoisir, il a une petite vie en brochet, il a une vie en poche. La vie en poche peut lui permettre de revenir même sur du brochet. Le livre d'après peut même relancer parfois le livre d'avant et vice-versa. Donc, la vie d'un livre, c'est pas forcément quelque chose de linéaire. Si le temps de, enfin, le temps de la constance de la Louvre viendra gentiment au fur et à mesure de son moment. L'essentiel, c'est que les lecteurs se fassent plaisir et auquel cas, ça se fera tout seul.
Ton troisième roman, Dur comme fer, est déjà écrit et paraîtra chez France Loisirs en 2024 et en 2025 aux Presses de la Cité.
Oui.
Ce qui veut dire que tu es en phase d'écriture pour un prochain roman. Enfin, je dis un.
Alors, en fait, donc Dur comme fer qui sort en 2025, donc est prêt.
24 chez France Loisirs.
Ben voilà, 24 chez France Loisirs, mais 25, disons, de manière large et officielle. Le 2026, écoute, est prêt aussi. Donc là, je suis en train de plancher sur 2027.
Je l'ai vu.
Ouais. Tu peux attester.
J'ai pas eu la curiosité de regarder ce qui était marqué.
Je planche sur 2027 et je suis ravie d'avoir cette année d'avance parce que du coup, j'ai une année d'avance sur mon programme. Mais je suis ravie parce que du coup, ça me rend plus cool, quoi. Je me dis que si jamais il y a une année, quelque chose qui plaît pas ou qui rate, eh ben, c'est pas grave, c'est pas la panique. J'ai mon année d'avance et j'adore avoir mon année d'avance.
Tu aimerais avoir combien de livres d'avance alors ?
Non, mais c'est bien comme ça. Franchement, un ou deux d'avance, c'est parfait, ça suffit largement. Il ne faut pas non plus être trop décalé, parce que parler avec passion d'un livre qu'on aurait écrit il y a 5 ans, c'est quand même pas facile. Hein.
La Cécile Baudin d'il y a 1 an, est-elle la même que celle d'aujourd'hui ?
Ouais, j'espère bien. Hein. Bien sûr, il manquerait plus que ça. Non. Alors d'abord, franchement, c'est pas parce qu'un jour on a écrit un livre et qu'il a plu un peu qu'il y a de quoi devenir prétentieux.
On peut se bonifier.
Voilà. Non, ce qu'il y a de sûr, c'est que je développe des compétences qui, chez moi, n'étaient pas forcément très... voilà. J'étais nulle sur les réseaux sociaux. Bon, bah, tout le monde m'y a mise de force, ma fille, tout le monde, voilà.
Oui, ça va mieux.
M'y a mise de force, je suis un peu moins nouille. J'étais un peu timide, je suis un peu moins. Donc on développe des compétences sur un certain nombre de sujets, effectivement, nouveaux. Je ne savais pas ce que c'était une interview, je ne savais pas ce que c'était même le business model des libraires, des éditeurs. Donc, j'ai appris des choses, voilà. J'ai appris des choses, mais je suis la même personne, je resterai toujours la même personne. Et c'est pour ça que c'est très bien que ça m'arrive tout ça à 50 ans. Parce qu'à 50 ans, j'allais dire, on est à peu près construit dans sa tête. On est la même personne, ça dure ce que ça dure, les choses. Et puis, on profite, et puis voilà.
Bien. Alors tout à l'heure, nous évoquions les séances de dédicace. Il est l'heure de passer à la rubrique 4e de couverture.
Je ne vous connais pas, je vous frôle. Là sur le quai, épaule contre épaule. Sur les 4e de couverture, nous cherchons la même aventure. Sur les 4e de couverture.
4e de couverture, ce sont nos coups de cœur, les sorties et les dates des prochaines séances dédicaces. Cécile, quel est ton dernier coup de cœur littéraire ?
J'ai adoré, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, j'ai adoré le dernier Lisa Gardner qui s'appelle L'été d'avant. Voilà, qui est un policier qui raconte l'enquête d'une femme qui consacre sa vie à résoudre des cold cases aux États-Unis. Et c'est vraiment très bien écrit, très drôle, et cette héroïne est très attachante, j'ai beaucoup aimé.
Tu peux nous rappeler le titre ?
C'est L'été d'avant de Lisa Gardner.
Alors côté sorties, notons le dernier roman de Pascal Alliot, D.S. Irae, Jour de colère aux éditions Maya, et qui sera mon invité le jeudi 5 septembre 2024. Le livre de Simon Porcher, La fin de l'eau aux éditions Fayard. Le dernier thriller de R.J. Ellory, Au nord de la frontière aux éditions Sonatine. Le nouveau roman de Jean-Paul Dubois, L'origine des larmes aux éditions de l'Olivier. Le nouveau livre de Jean-Dominique Michel, Autopsie d'un désastre aux éditions Marco Pieter. Et le livre de Jean-François Bayard, Malheur à la ville dont le prince est un enfant, de Macron à Le Pen 2017-2024 aux éditions Cartala que je vous recommande. Roman Gard, c'est terminé pour aujourd'hui. Voilà. Cécile Baudin, merci d'avoir accepté l'invitation
merci
de Radio
Michel,
B.
Merci Michel, merci tout le monde.
Gard. Rappelons que ton deuxième roman, La Constance de la Louve, est paru le 14 mars 2024 aux éditions Presse de la Cité dans la collection Terre de France. On peut se le procurer où, sans oublier Marc de Fabrique?
On peut se les procurer, comme on dit, dans toutes les bonnes librairies.
Et alors, en particulier
à Bourg, oui. Bien sûr, je ne peux que vous recommander Mon Barbon, Zanini, ils en ont aussi à la FNAC, bien sûr, de Viria. Voilà, donc on peut aller partout, et puis partout dans le département, bien évidemment. Et puis sinon, c'est commandable chez son libraire si d'aventure il n'en a plus.
La librairie à Messimieux aussi, peut-être.
Bien sûr, Célestine à Messimieux, les libraires également de Fontaine-sur-Saône, je crois qu'ils s'appellent Les Mots Bleus. Voilà, donc les librairies de là en général. Puis bien sûr, la librairie Buffet d'Oyonnax.
Bien sûr.
La maison de la presse de Nantua, je connais bien et que je remercie d'ailleurs, parce qu'ils ont été très gentils avec moi chez Buffet aussi.
Voilà.
Donc voilà, toutes les librairies de là. Et puis l'espace culturel aussi, Édouard Leclerc à Bénaud, qui en a toujours beaucoup et qui est un super copain.
Un fidèle ?
Un super fidèle et un super copain.
On peut suivre ton actualité sur Internet via ton site. Hein. C'est pas souvent que, donc il faut le citer, www.cécilebaudin.fr, sans oublier évidemment les inévitables réseaux sociaux.
Absolument.
Que tu adores.
Je fais ce que je peux.
Prochaine édition le jeudi 5 septembre 2024 avec Pascal Lio, qui présentera son dernier roman Dies Irae, Jour de colère, paru le 15 avril 2024 aux éditions Maya. C'est l'histoire d'un groupe de rock français, de ses débuts à sa déchéance. L'auteur s'aventure dans les recoins les plus sombres de l'âme humaine, où chaque émotion, même la plus machiavélique, est scrutée avec une sensibilité particulière. Les fans de rock ne pas s'abstenir. Cécile, bonne chance pour la suite de tes aventures.
Merci
de romancière.
Michel.
Bon salon, bonne séance de dédicace, et puis à bientôt sur Radio B.
Super, à merci, bientôt. À bientôt.
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose, quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.